Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
Nos trois invités en plateau, Patrick Bertrand, directeur général en charge des opérations d'Olnest, le family office de Jean-Michel Aulas, bonjour.
Bonjour.
Xavier Poyot, PDG de Micropole, bonjour.
Christian,
j'ai dit Xavier, j'étais déjà à la ligne suivante, bonjour Christian.
Ouais. Bonjour.
Et Xavier, le voici, Tambeau, directeur principal de l'OFCE, bonjour et merci d'être avec nous. On va parler de ce projet du gouvernement qui fait déjà polémique, l'idée n'est pas nouvelle, elle avait été avancée par Emmanuel Macron, elle avait fait l'objet d'amendements dans le dernier projet de loi de finances, mais n'avait jamais été adoptée cette idée. C'est une taxe sur les rachats d'actions. La fourchette était assez large à l'époque. On parlait de 0,1 à 10% pour dissuader les entreprises de racheter leurs propres actions. Christian, et pas Xavier, c'est une bonne idée.
J'hésite entre démagogie ou vraie fausse bonne idée, quoi. C'est typiquement le genre de sujet technique sur lequel les avis sont nombreux et pas toujours vraiment éclairés. Et puis deuxièmement, on voit bien que ça se passe dans le contexte général de dire le déficit de l'État, il faut trouver de l'argent et donc il faut taxer les entreprises, je vais pas dire les riches ou quoi que ce soit, c'est parce que ça fait partie en France de l'idée générale. Qu'en est-il sur ce sujet de rachat d'actions ? On va dire qu'il y a autant de cas de figure que d'entreprises. Si je faisais un comparatif qui est ce qu'il est, les 35 heures, c'était très bien pour certaines personnes et ça n'avait aucun sens sur d'autres. Mais on est en France, donc il faut appliquer. Tout le monde doit être traité de la même manière.
Même tarif pour tout le monde ?
Non, mais comment dire ? Ces rachats d'actions, il y a des cas dans lesquels c'est tout à fait logique. L'entreprise cherche à faire monter son cours de bourse, soit pour se protéger, soit pour distribuer derrière des actions gratuites à ses collaborateurs. Elle veut, dans un certain sens, récompenser ses actionnaires pour les fidéliser. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui sont tout à fait valables et qui sont finalement dans l'objet social de l'entreprise, qui ont une logique purement industrielle et vertueuse. On peut imaginer qu'il y a effectivement des cas dans lesquels il y a une vision qui est, on n'a pas moyen de réinvestir, etc. Ceci dit au passage, ce qu'on cite souvent le plus, c'est les GAFA, qui dégagent des bénéfices phénoménaux, qui réinvestissent comme des fous sur tout un tas de sujets et qui eux-mêmes rachètent leurs actions. Donc le lien, il n'est pas immédiat. Enfin, je ne sais pas dire si je rachète des actions, je fais quelque chose qui est contre-productif, antisocial, anti-économique. Cette liaison automatique est une bêtise. Donc si on fait une taxe qui est pour tout le monde, encore une fois, ça va créer un certain nombre de problèmes. Alors, on nous dit à chaque fois, c'est ce qu'on disait en antenne avant de démarrer, oui, mais c'est ce que font les Américains, sauf que la taxation sur les entreprises aux États-Unis, elle est nettement plus faible que ce qu'on a en France. Donc, à quoi ça va aboutir au final ? À quoi ça va aboutir ? Eh bien, ça va augmenter la fiscalité des entreprises françaises qui, excusez-moi, la barque est déjà suffisamment chargée. Donc, clairement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Patrick, lorsqu'Emmanuel Macron avait proposé ce sujet, l'objectif, c'était de les inciter à investir, à augmenter les salaires, plutôt que de racheter leurs propres actions. On a quand même l'impression aujourd'hui que l'objectif a changé. Le gouvernement est en train de chercher la moindre source de revenus.
Mais on y est, puisque en réalité, ça revient à augmenter le taux d'IS sur les bénéfices distribués. Lequel taux d'IS est déjà relativement important. Et je trouve très intéressant ce qu'a dit Christian tout à l'heure. On a un art consommé en France de dire, mais regardez dans tel pays ce qui a été fait aux États-Unis, sauf que le taux d'IS est beaucoup plus bas et que le taux des plus-values réalisées, puisque un rachat d'actions peut amener à une logique, c'est un peu comme la logique de dividende, à une taxation sur les plus-values ou si c'est considéré comme un dividende, comme des dividendes. Donc on mélange tout. Et le vrai sujet, c'est est-ce que on fait confiance aux dirigeants, actionnaires et à la gouvernance des entreprises ? Et le vrai sujet d'une gouvernance, c'est de vérifier plusieurs éléments. D'abord, est-ce que ma société est réellement rentable ? Deuxième élément, qu'ai-je fait de mon cash flow ? C'est-à-dire, est-ce que mon plan d'investissement, ma stratégie d'investissement est importante ? Troisième élément, est-ce qu'il existe un accord de partage de profit à l'intérieur de l'entreprise. Si toutes ces cases sont remplies, l'argent disponible à vocation, c'est-à-dire toutes les cases remplies avec les autres parties prenantes, ben, l'argent a vocation à remonter. Et là encore, toujours cette idée hein, que les gens vont récupérer du cash, ils vont mettre ça au fond de leur jardin et ils paieront rien comme impôt. En réalité, comme je disais tout à l'heure, le rachat d'actions peut être considéré comme dividende et donc taxé. Et puis, deuxième élément, cet argent, il est réinvesti quelque part. Donc, il y a une logique de flux. Il est au moins mis à la Caisse d'épargne, ce qui permet de favoriser un certain nombre d'investissements de la Caisse des dépôts. Donc, voilà, on mélange tout. On mélange tout pourquoi ? Parce qu'on voit bien quelle est l'urgence et puis surtout le stress des pouvoirs publics consistant à dire, eh bien, j'ai un problème, donc où est-ce que je peux lever de l'impôt ?
Xavier Timbo, cette taxe, elle existe aux États-Unis, elle est de 1%, et Joe Biden est tellement convaincu qu'il veut la porter à 4%.
Oui, alors, je pense qu'il y a deux arguments principaux qu'on peut évoquer pour justifier cette taxation. Alors, le premier, c'est un mauvais argument, mais c'est peut-être le principal et celui qui joue le plus. Il y a un argument d'économie politique. On est dans une situation budgétaire tendue, on va diminuer un certain nombre de dépenses, en particulier les dépenses sociales, et cette taxation des rachats d'actions peut être un petit peu le volet...
C'est-à-dire la mise à contribution des entreprises dans l'effort collectif.
D'une certaine façon, et puis avec un message politique qui est, voilà, c'est équilibré, il n'y a pas que les pauvres sur lesquels on va faire des économies, et on va aussi aller taxer les riches, tout en ayant une taxation qui sera quand même largement marginale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est probablement un meilleur argument. Il y a une petite distorsion fiscale au rachat d'actions. Alors, quand on rachète des actions, ce qui se passe, c'est qu'il y a des actionnaires qui réalisent une vente, ceux à qui on rachète les actions. Alors, ceux-là, ils sont a priori taxés, et ils vont être taxés au titre des plus-values. Et depuis le prélèvement forfaitaire unique, les plus-values sont taxées comme les dividendes. Donc on pourrait se dire...
À 30%.
Voilà, on pourrait se dire c'est équivalent, parce que, en fait, que ça soit distribué sous forme de dividendes ou sous forme d'actions rachetées, ça va conduire à peu près la même chose. Alors, il y a une nuance, c'est que en fait, il n'y a pas que les actionnaires qui se voient racheter des actions qui font une plus-value. C'est en fait tous les actionnaires qui font une plus-value. Mais pour ceux qui ne vendent pas, cette plus-value, elle est latente. Et tant qu'elle est latente, elle n'est pas taxée. Donc, voilà, il y a une petite différence entre distribuer des dividendes à tous ses actionnaires ou racheter à certains et faire une plus-value latente aux autres. Alors, à quoi ça sert de faire une plus-value latente, vous allez me dire, parce que c'est de l'argent, mais tant qu'on n'en dispose pas, on peut pas l'utiliser pour autre chose. Bah, si, en fait, on peut l'utiliser, parce qu'on peut se servir de cette plus-value latente, comme d'un collatéral. Et puis, aussi, quand on remanie son portefeuille, en fait, on est taxé sur le solde des plus-values et des moins-values. Et donc, là aussi, on peut utiliser, en fonction de sa situation personnelle, de son portefeuille, on peut utiliser ce rachat d'actions, qui va faire un bond au cours de l'action, pour liquider des positions qui, elles, étaient des moins-values et qui ne donnent pas lieu à un crédit d'impôt. Et donc là, on va pouvoir, de cette façon-là, réaliser une optimisation fiscale. Donc, il y a une optimisation fiscale possible, elle existe, elle n'est pas considérable, elle est très au cas par cas. Bon, ok, on taxe pas les plus-values latentes, ça c'est un choix qui se justifie, parce que ouais, les cours sont quand même tellement volatiles que ça serait difficile de le justifier, on est d'accord là-dessus. Mais là, en l'occurrence, cette taxation au moment où la plus-value est générée pourrait être un moyen de pallier à l'absence de taxation sur les plus-values latentes.
Oui,
oui, il y a un autre point qui est important, qui a été abordé par Christian tout à l'heure, c'est de savoir ce que l'on fait des actions rachetées. Donc l'entreprise rachète ses propres actions, donc elle devient propriétaire de ses propres actions. Et là, il y a des règles très établies. Quand l'Assemblée Générale a approuvé ça, le Conseil d'administration doit se réunir, et il y a plusieurs affectations possibles de ces actions. Et dans ces affectations possibles, il y a des plans d'action gratuites pour les collaborateurs, donc ça a du sens. Il peut y avoir aussi utilisation de ces actions pour réaliser des croissances externes, c'est-à-dire des acquisitions par échange d'actions, et ces actions autodétenues peuvent être utilisées pour réaliser ces croissances externes. Donc, il faut bien regarder, on peut pas généraliser. Et malheureusement, on généralise, on dit, c'est un peu ce que tout le débat qui a eu lieu autour des super dividendes, on généralise. Le sujet est vraiment particulier à chaque entreprise.
Christian, est-ce qu'il n'y a pas une forme de populisme derrière ce débat, avec tout ce qui constitue aux yeux de certains le pire de notre économie, actionnaire, bourse, dividende? On a vraiment l'impression qu'à chaque fois, ce sont des gros mots et qu'il faut punir systématiquement ces gens-là, alors que, je le précise, il y a beaucoup d'actionnaires salariés en France.
Bien sûr.
Et que n'importe qui peut devenir actionnaire. Si ceux qui ont l'impression que c'est une vie de rêve d'être actionnaire peuvent très bien acheter des actions plutôt que de mettre de l'argent sur leur livret A.
Et ils bénéficient des rachats d'actions.
Ouais, non, mais on retombe malheureusement dans le biais français où l'économie de marché, les entreprises, il y a toujours en tout cas pour une partie des Français, une partie de la classe politique, un sujet louche, malsain, voire dangereux. C'est dramatique ce point-là. Donc vous voyez, en dehors de tout ce qui vient d'être dit, une fois de plus, c'est dire, parce que là on débat des sujets de rachat d'actions sur des point finalement, je veux dire, enfin relativement technique. J'imagine monsieur et madame tout le monde, bon, les sujets leur échappent peut-être un petit peu, alors qu'il ne faut pas oublier non plus que tous ces sujets permettent derrière de nourrir les Français de manière générale. Tous les sujets d'assurance vie, ça vit aussi sur ce que génèrent comme bénéfices les entreprises. Voilà. Donc c'est un sujet global qui fait bouger la société, si j'ose dire. Mais là, une fois de plus, on rajoute, 100 balles dans la machine pour dire, bah oui, c'est des rachats d'actions, il y a des gens qui doivent gagner de l'argent indûment, il faut les taxer, c'est pas bien, et puis derrière, on va y aller pour l'évasion fiscale, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Ça participe malheureusement à ce débat très français qui est pas anti-entreprise, mais en tout cas anti-économie de marché et qui génère de la méfiance et des réactions complètement dramatiques, y compris dans un certain clan politique.
Xavier,
j'entends ce que dit Christian, ça me paraît assez juste. Ceci étant dit, j'ai envie de le transposer, parce que quand on parle de l'assurance chômage et du fait qu'en réduisant la durée de l'assurance chômage, on va réduire le chômage. On fait preuve aussi d'une forme de populisme et on fait preuve aussi d'un raccourci qui représente l'image qu'ont certains de comment fonctionne l'assurance chômage et le marché du travail, et pas forcément d'abord ni la réalité ni le consensus. Donc enfin voilà, on vit dans un monde où effectivement on a des dissensus et où on a du coup des oppositions parfois idéologiques. Mais attention, le privilège de l'idéologie, il n'est pas à ceux qui sont pour le rachat d'actions, pour la taxation du rachat d'actions. On trouve de l'idéologie un peu partout.
Non mais alors ça, ok Xavier, mais ce qui est intéressant...
Mais j'accuse personne, hein, Christian.
Oui, non, mais je n'en doute pas, bien évidemment.
C'était un peu induit, quand même.
Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir qu'est-ce que font nos petits copains, si je veux dire, et nos petits copains en Europe, encore une fois, sans faire d'extrapolation. Sur ce sujet d'assurance chômage qui est effectivement sur la table, qu'est-ce que fait l'Allemagne, qu'est-ce que fait l'Angleterre, qu'est-ce que fait l'Italie, etc. Ils ont un taux de chômage qui est nettement inférieur au nôtre, et depuis des années, globalement, parce qu'ils ont effectivement une politique d'inciter les gens, il y a des cas très particuliers dans lesquels il faut continuer à aider les gens, bien évidemment, parce que le chômage est un sujet excessivement complexe, qui va de gens qui se battent comme des fous et qui dettent au chômage et est un drame absolu et qui cherchent à retrouver du boulot par tous les moyens, à des gens qui profitent du sujet. Il y en a, et moi je peux vous dire, pour en avoir vu, en avoir discuté avec bon nombre de chefs d'entreprise que je connais bien, des gens qui profitent, qui se vautrent dans le système. Voilà. Donc il faut faire bouger cette ligne-là, en mettant effectivement des protections pour les cas les plus difficiles et en aidant ceux qui veulent vraiment rentrer. Donc encore une fois, il s'agit de trouver le bon équilibre, mais arrêtons de dire qu'on donne des choses, enfin on met en place des règles que nos concurrents directs ne mettent pas, puisque là on se tire des balles dans le pied.
Patrick, commentaire et on passera à l'autre.
Très rapidement, et avec un chapeau que Christian, on a beaucoup évoqué avec Christian, le chapeau, c'est que nous avons un des taux de prélèvement obligatoire global, un des plus élevés au monde et en Europe.
Donc, on fait la course en tête devant le Danemark
donc,
désormais.
Il faut déjà marteler ça, pour que les Français qui nous écoutent, même si au-delà de la technicité du sujet, intègrent bien le fait que dire « Ah, on va prendre une taxe supplémentaire », ça induit le fait qu'il y a des gens qui profitent d'un système et qui sont sous-taxés. Nous sommes dans un système qui est le plus taxé au monde et en tout cas en Europe.
On va parler de l'emploi.
Juste sur ce point, parce que c'est très important.
Un dernier mot.
Oui. Je vous invite à regarder une étude de France Stratégie qui est parue il y a 3 ou 4 ans.
Oui.
Dans lequel, quand on enlève dans les prélèvements obligatoires tout ce qui est la contribution au système de retraite, qui a la particularité en France d'être entièrement socialisé, contrairement aux autres pays, en fait la France se trouve, en termes de prélèvements obligatoires, dans la moyenne de l'Union européenne.
Oui.
Donc c'est un point important quand
même, parce
que
bien sûr, il faut dissocier.
Comme quoi on serait le pays le plus taxé au monde et que les statistiques de l'OCDE sur les prélèvements obligatoires en sont la démonstration, en fait, est biaisé par le fait que dans ces prélèvements obligatoires,
il y a du social.
Le champ du prélèvement obligatoire n'est pas le même dans tous les pays. Et quand on ramène au même champ, bah, la France est dans la moyenne. Mais je vous invite à lire cette
sujet connexe. On n'est pas très loin. On va parler de l'emploi des seniors. Dernière journée de négociation des partenaires sociaux sur la question des parcours professionnels. L'emploi des seniors est au centre des débats. En France, il n'y a que 36,2% des personnes âgées de 60 à 64 ans qui ont aujourd'hui un emploi. Pourquoi est-ce qu'on est à la traîne, Xavier Timbaud ?
Bah, on est à la traîne pour différentes raisons, mais pour le fait qu'on avait jusqu'à maintenant un système de retraite dans lequel effectivement le départ à la retraite se faisait plus tôt. Il y a tout un tas de réformes qui l'ont.
Justement, est-ce que la générosité de l'État sur les systèmes de pré-retraite n'ont pas incité pendant longtemps les entreprises à se débarrasser des seniors un peu tôt ?
Oh, mais les pré-retraites, je pense que ça, c'est un sujet c'est un sujet des années 90, hein. Ouais. C'est-à-dire que.
Pardonnez-moi mon âge.
Oui, je suis désolé, mais enfin, là, c'est pour vrai. Le coup, tous les gens qui ont été mis dans les dispositifs en pré-retraite, bah, ils sont maintenant à la retraite, et même, d'ailleurs, il y en a plein qui sont plus du tout à la retraite du tout. Donc, je pense pas que ce soit un problème de pré-retraite, c'est vraiment un problème d'âge de départ à la retraite. C'est un problème de régimes spéciaux aussi, qui avaient des conditions particulières. Il y a beaucoup de réformes qui ont été faites en la matière, hein, dans les régimes spéciaux. Maintenant, il y a une clause du grand-père. Donc évidemment il y a toutes les générations antérieures qui bénéficient encore de ce système, mais les nouvelles générations ne vont plus en bénéficier, ce qui fait qu'il va y avoir un départ à l'âge de la retraite de plus en plus élevé et de façon très rapide dans ces régimes spéciaux d'ici quelques dizaines d'années, voilà. Si vous regardez par exemple le rapport de l'Union européenne sur les retraites qui s'appelle le Aging Report. En fait, du fait de sa démographie, malgré un âge de la retraite qui est plutôt
repoussé,
plus bas, mais grâce aux réformes qui l'ont augmenté, les perspectives financières de la France sont plutôt meilleures que celles des autres pays, parce qu'en gros, on a fait les réformes et on a une démographie qui reste encore plus favorable que celle de l'Allemagne ou de l'Italie, par exemple.
Mais est-ce qu'on peut décaler l'âge de départ à la retraite, le repousser de 2 ans, sans se pencher spécifiquement sur l'emploi des seniors ? Christian, vous êtes chef d'entreprise. J'ai l'impression que dans les entreprises, on n'aime pas les vieux.
Alors bon, moi Micropole, en particulier, la moyenne d'âge, je dois être 30 ans, donc je dois faire partie des plus anciens de la boîte. Mais deux remarques avant. Vous parliez les entreprises qui profitaient des trucs de retraite pour pousser les gens dehors. Mais ça arrangeait tous les gens qui les prenaient, les retraites aussi.
Bien sûr.
Hein. Faut pas dire que c'était l'entreprise. Les gens applaudissaient dès demain et partaient. Bon. Après, sur les retraites, j'ai bien compris qu'il y avait le Conseil d'orientation des retraites qui vient de sortir un nouveau rapport, là.
Pas encore.
Oui, qui est en train de le bâtir sous l'autorité de Gilles Berset, qui est
Il sera avec nous en plateau cette semaine.
Voilà, qui est quelqu'un de tout à fait, technique et respectable et respecté, bien évidemment, qui va avoir une vision un petit peu moins optimiste que celle qui a été faite jusqu'à présent, quoi. Après, c'est un vrai sujet, parce que les gens partaient plutôt en retraite, parce que c'était dans la tête des gens qu'on partait à 60 ans, et donc bah, à 58 ou 59, bon, on disait, bon, ok, j'ai envie de partir. La retraite, elle a été repoussée à 64, et on l'a dit 50 fois à cette antenne, il y a 9 chances sur 10 que dans les années à venir, elle soit encore repoussée. Enfin, c'est ce qui se passe dans tous les autres pays de manière générale. Donc quand vous dites, ma date de départ en retraite à 64, bah, mécaniquement, vous-même, en tant que personne, vous dites « Ok, je ne m'habille plus à ça ». Après, est-ce que les entreprises doivent elles-mêmes gérer différemment les gens de 60 ans ? Oui, donc les entreprises portent une part de responsabilité. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. C'est aussi dans le mindset de l'entreprise, d'une manière générale, de dire « Bon, quelqu'un qui a 60 ans, ok, on ne sait pas quoi en faire avec ça ». Mais non, oui, c'est des gens qui ont plein de compétences, qui ne travaillent pas de la même manière, ne peuvent pas être sur les mêmes emplois, évidemment, surtout ces emplois manuels ou des choses comme ça. Donc, à charge de l'entreprise, mais là, je reprends ce que dit Patrick Martin au nom du MEDEF, c'est quand même principal. Un débat interne. C'est pas la même chose sur une entreprise de BTP, une entreprise de prestations intellectuelles, un cabinet d'avocats, des sujets médicaux, etc., etc. Donc oui, l'entreprise doit s'adapter. Encore une fois, je me répète, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais il faut proposer des solutions spécifiques. Donc le contrat d'emploi senior est, je pense, une bonne réponse. On ne travaille pas et on n'a pas les mêmes rapports avec quelqu'un qui a 25 ans ou quelqu'un qui en a 62, 63.
Sauf que dans ce projet, on mettrait automatiquement à la porte une personne qui arriverait à l'âge de départ à la retraite dans le cadre de ce contrat.
Ça serait une possibilité de, si j'ose dire, d'accord. Mais après, je voudrais quand même rassurer tout le monde, la majorité des gens qui arrivent à leur droit acquis veulent partir.
Mais pourquoi on n'a jamais cherché à dupliquer en France ce qui se fait dans les pays scandinaves où on crée des binômes en entreprise avec des seniors qui ont une expérience, des jeunes qui ont besoin d'apprendre? Ça permet aux personnes qui vont partir à la retraite de le faire progressivement, puisque ça se fait sur la base de temps partiel, de ne pas se sentir inutile du jour au lendemain. Ça leur permet de travailler jusqu'au bout et ça aide des jeunes.
Bien, on est
ça existe,
on l'utilise pas beaucoup.
On est au cœur du sujet.
C'est comme les résidences seniors avec les jeunes. On en parle beaucoup, mais on le fait pas beaucoup.
Non, mais on est au cœur du sujet. Je parlais de mon expérience personnelle, puisque j'accompagne beaucoup de jeunes entreprises. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de jeunisme. Hein. Il n'y a pas d'opposition entre jeunes et plus expérimentés. Au contraire, il y a une forte attente de cette diversité que crée l'expérience et puis le dynamisme qu'on peut trouver chez les entrepreneurs. La deuxième chose, qui n'est pas inintéressante aussi, puisqu'on parle beaucoup d'industrialisation, de souveraineté, etc. Tiens, et je crois que c'est l'ancien président d'EDF qui l'avait évoqué il y a un an ou un an et demi, en disant, mais j'ai laissé partir énormément de gens qui avaient une compétence spécifique et on les a plus pour relancer le programme nucléaire. Donc si on associe industrialisation, réindustrialisation et compétence, eh bien non, l'âge signifie plutôt compétence et pas, comme on aime bien le dire, nécessité de reverse mentoring, ce serait que c'est les jeunes qui expliqueraient aux moins jeunes la compétence qu'il faut avoir. Et donc pour moi, le sujet principal de la négociation, et j'espère qu'ils arriveront au bout, parce que ça emportera l'homologation de la convention qui a été signée en septembre 2023, pour moi le vrai sujet c'est la formation tout au long du parcours. Donc tout ce qui est entretien professionnel d'employabilité tous les 5 ans, parcours d'évolution professionnelle, etc. De telle façon qu'on n'arrive pas à cette situation où effectivement, selon les secteurs, on peut se retrouver avec des personnes qui sont encore tout à fait capables mais qui n'ont pas le niveau de compétences souhaité.
On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie des experts.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.